Livre 3. Concernant ce qui s'est passé de plus mémorable dans la famille de M. Allworthy, depuis que Tom Jones a atteint sa 14e année, jusqu'au moment où il est parvenu à sa 19e. Le lecteur pourra recueillir dans ce livre quelques idées sur l'éducation des enfants. Chapitre 1er. Contenant peu de choses ou rien. Le lecteur voudra bien se souvenir qu'au commencement du second livre de cette histoire, nous l'avons prévenu de l'intention où nous étions de passer sous silence plusieurs intervalles considérables de temps lorsqu'il n'offrirait rien qui méritât d'être rapporté dans des annales de la nature de celle-ci. Et en cela, nous ne consultons pas seulement notre dignité et notre plaisir, mais encore le bien et l'avantage du lecteur. Car outre que par ce moyen nous l'empêchons de perdre son temps en faisant une lecture qui ne lui apporterait ni instruction ni agrément, nous lui donnons occasion de faire usage de cette étonnante sagacité qu'il possède sans doute au suprême degré, en lui laissant remplir lui-même les espaces vides. C'est pour ce dessein que nous avons déjà pris le soin de lui donner les instructions nécessaires dans les chapitres précédents. Quel lecteur ne sait, par exemple, à moins que son cœur ne soit de pierre, ou sa tête d'une matière aussi dure, que M. Allworthy éprouva d'abord, par la perte de son ami, ces émotions douloureuses qui, dans des circonstances semblables, se font sentir à tous les hommes. Quel lecteur ne sait pas encore que la philosophie et la religion modérèrent avec le temps et finirent par dissiper ce chagrin, la première en lui démontrant la folie et l'inutilité, la dernière en le lui défendant et l'apaisant en même temps par l'espérance certaine qui donne à l'homme fort et religieux le courage de prendre congé d'un ami sur son lit de mort, sans en être beaucoup plus affligé que s'il le voyait partir pour un long voyage, en conservant l'espérance de le revoir. Le lecteur judicieux ne doit pas être plus embarrassé sur le compte de Mrs. Bridget Blifil, qui, pendant tout le temps que la douleur devait se montrer au dehors, se conduisit avec le respect le plus scrupuleux pour toutes les règles de l'usage et de la décence, changeant exactement de visage, avec les mêmes gradations qu'elle changeait de vêtements. Car de même qu'elle quitta ses habits de veuve pour prendre le noir pour le gris pour le blanc, son visage passa successivement du désespoir à l'affliction, de l'affliction à la tristesse, de la tristesse au sérieux, jusqu'au jour qui lui permit de reprendre sa première sérénité. Nous avons cité ces deux exemples uniquement pour montrer au commun des lecteurs la tâche qui peut leur être imposée. Quant aux plus habiles et aux plus célèbres critiques, on peut raisonnablement attendre d'eux un plus grand effort de jugement. Ils feront, je n'en doute point, un grand nombre de découvertes importantes sur ce qui s'est passé dans la famille de notre respectable gentilhomme pendant tout le temps sur lequel nous avons cru devoir garder le silence. Car, quoiqu'il ne se soit rien passé dans cet intervalle, qui mérita une place dans cette histoire, j'aurais pu cependant parler de tel incident, d'une importance égale à ceux rapportés par les historiens journaliers et hebdomadaires de ce siècle, qu'un grand nombre de personnes perdent un temps considérable à lire, et j'ai tout lieu de le craindre sans en tirer beaucoup d'instruction. Au lieu qu'en livrant le lecteur à ses propres conjectures, il peut employer avec beaucoup d'avantage les plus nobles facultés de son esprit, puisque c'est un mérite plus utile de savoir juger des actions des hommes par leur caractère que de leur caractère par leurs actions. Ce mérite, je l'avoue, exige la plus grande pénétration. Mais quand on possède la véritable sagacité, on peut juger dans les deux cas avec non moins de certitude. Comme nous sommes convaincus que la plupart de nos lecteurs la possèdent au suprême degré, nous leur avons laissé un espace de 12 années pour l'exercer. Nous allons maintenant faire reparaître notre héros, âgé de 14 ans, n'ayant aucun doute qu'on le désire depuis longtemps de le connaître. Chapitre 2. Le héros de cette grande histoire paraît sous des auspices très funestes. Petit conte d'un genre si commun, que quelques lecteurs le jugeront indigne de leur attention. Un mot ou deux concernant un certain gentilhomme, et plus particulièrement un garde-chasse et un instituteur. Comme en prenant la plume pour écrire l'histoire, nous nous sommes bien promis de ne flatter personne, mais de marcher constamment dans le chemin de la vérité, nous sommes obligés d'amener notre héros sur la scène. et de le faire connaître plus désavantageusement que nous ne l'aurions désiré. Nous dirons donc avec franchise que c'était l'opinion générale dans la maison de M. Allworthy que ce jeune homme serait un jour pendu. Je suis fâché de le dire, cette conjecture était trop bien fondée. Le petit drôle avait, dès sa plus tendre enfance, montré du penchant pour un grand nombre de vices, et notamment pour un qui a une tendance aussi directe qu'aucun autre à cette fatale destinée. Il avait déjà été convaincu de 3 vols. Premièrement, d'avoir dérobé du fruit dans un verger. Deuxièmement, d'avoir enlevé un canard de la cour d'un fermier. Troisièmement, d'avoir pris une balle à jouer dans la poche de M. Blifil. Les vices de ce jeune homme étaient d'ailleurs jugés d'autant plus défavorablement qu'on les opposait aux vertus de M. Blifil, son compagnon, autre jeune homme, d'un caractère si différent de celui de Tom, que non seulement la maison, mais encore tout le voisinage, ne retentissait que de ses louanges. Il faut avouer qu'on remarquait dans celui-ci les dispositions les plus heureuses. Il était plus sobre, plus discret, plus pieux qu'on ne l'est d'ordinaire à son âge. Toutes ces bonnes qualités lui avaient gagné l'affection de ceux qui le connaissaient, tandis que Tom était l'objet d'un blâme universel et que l'on s'étonnait presque partout que M. Allworthy laissât élever ce petit drôle avec son neveu, dont on craignait que la moralité ne se corrompît par un si mauvais exemple. Un incident qui survint à peu près à cette époque fera connaître au lecteur éclairé le caractère de ces deux jeunes gens, mieux que la plus longue dissertation. Tom, qui, tout méchant qu'il est, doit être le héros de cette histoire, n'avait parmi tous les domestiques de la maison qu'un seul ami, car Mrs. Wilkins l'avait abandonné depuis longtemps et s'était entièrement réconciliée avec sa maîtresse. C'était le garde-chasse, assez mauvais sujet de sa nature, et que l'on jugeait n'avoir pas de notion plus juste sur la différence du tien et du mien que le jeune Tom lui-même. Cette amitié donna lieu aux domestiques de faire un grand nombre de remarques, mêlées de sarcasmes, dont plusieurs étaient déjà des proverbes, ou le sont devenus depuis, et dont l'esprit est tout entier dans ce court axiome latin « Noscitur a socio »« Dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es ». À dire vrai, quelques-unes de ces horribles méchancetés de Jones, dont nous avons déjà cité 3 exemples, provenaient peut-être de l'encouragement qu'il avait reçu de ce mauvais sujet, qui, dans 2 ou 3 circonstances, avait été le receleur de ses larcins. Car le canard tout entier et une grande partie des pommes avaient été mangés par lui et par sa famille, quoique le pauvre Tom, qui seul avait été découvert, eût supporté tout le blâme et tous les coups. Il en fut encore la victime dans l'occasion suivante. La terre contiguë à celle de M. Allworthy appartenait à un de ces gentilshommes que l'on appelle conservateur de gibier. Par la sévérité avec laquelle cette espèce d'homme venge la mort d'un lièvre ou d'une perdrix, on pourrait supposer qu'ils ont le même culte et la même superstition que les banyans des Indes, dont un grand nombre, dit-on, consacrent leur vie à conserver et à protéger certains animaux. Il y a pourtant cette différence à l'avantage de nos banyans anglais que, tandis qu'ils garantissent certains animaux de leurs autres ennemis, ils en massacrent eux-mêmes sans pitié la charge de plusieurs chevaux, en sorte qu'on ne peut évidemment les accuser d'aucune superstition de cette nature. Quant à moi, j'ai beaucoup meilleure opinion de cette espèce d'homme qu'on ne l'a généralement, car je les considère comme remplissant le vœu de la nature et les grands desseins auxquels ils sont appelés. De même qu'Horace nous dit qu'il y a une espèce d'homme fruges consumere nati, né pour consommer les fruits de la terre, je ne fais aucun doute qu'il n'y en ait d'autres feras consumere nati, né pour consommer les animaux des champs, ou, comme on le dit plus vulgairement, le gibier. Et personne ne niera, je crois, que ces gentilshommes ne remplissent parfaitement la fin pour laquelle ils ont été créés. Le petit homme était un jour à la chasse avec le garde, lorsqu'une compagnie de perdrix s'éleva sur le bord de cette terre voisine que, pour remplir les sages desseins de la nature, la fortune avait donné à l'un de ces consommateurs de gibier dont nous venons de parler. Les perdrix volèrent jusque sur cette terre voisine et furent tenus en arrêt par les 2 chasseurs dans quelques buissons de genêts à 200 ou 300 pas des domaines de M. Allworthy. Monsieur Allworthy avait donné à son garde les ordres les plus sévères. Il lui avait défendu, sous peine de perdre sa place, de passer jamais sur les terres d'aucun de ses voisins, et pas plus sur celles dont les maîtres étaient les moins rigides, que sur celles dont nous venons de parler. Ces ordres, à dire vrai, n'avaient jamais été bien scrupuleusement exécutés, relativement aux autres. Mais comme on connaissait bien le caractère du gentilhomme chez lequel les perdrix s'étaient réfugiés, ainsi que dans un sanctuaire, le garde-chasse n'avait jamais tenté de mettre le pied sur son territoire. Il ne l'eût même pas osé en ce moment si le jeune chasseur, qui était très ardent à poursuivre son gibier, ne lui eût persuadé de le suivre. Cédant aux importunités de Tom, et étant d'ailleurs lui-même passionné pour la chasse, le garde entra sur la terre et tua une des perdrix. Le gentilhomme était alors à cheval, à fort peu de distance de nos deux chasseurs. À peine eut-il entendu le coup de fusil, que, s'avançant vers le lieu d'où il était parti, il découvrit le pauvre Tom. Quant au garde-chasse, il s'était adroitement glissé dans la partie la plus épaisse d'un buisson de genêt, où il avait eu le bonheur de se cacher. Le gentilhomme, ayant fouillé le jeune drôle et trouvé la perdrix sur lui, le menaça d'une vengeance terrible, et jura qu'il irait chez M. Allworthy pour l'instruire du fait. Il tint parole, car il s'y rendit aussitôt, et se plaignit qu'on eût passé sur sa terre, en termes aussi forts et avec des expressions aussi amères, que si l'on fût entré dans son château avec effraction, et que l'on en eût enlevé les meubles les plus précieux. Il ajouta qu'il y avait encore quelqu'un avec Tom, quoiqu'il n'eût pu le découvrir, car il avait entendu presque au même instant deux coups de fusil. « Nous n'avons trouvé que cette perdrix, ajouta-t-il, mais Dieu sait tout le mal qu'ils ont fait. » À son retour chez M. Allworthy, Tom fut aussitôt sommé de comparaître devant lui. Il avoua le fait et n'accorda pour excuse que ce qui était exactement vrai, c'est-à-dire que la compagnie de perdrix s'était levée sur la terre de M. Allworthy. M. Allworthy demanda ensuite à Tom quelle était la personne qui l'accompagnait, lui disant qu'il était résolu de le savoir et l'instruisant de la circonstance des deux coups de fusil que le gentilhomme et ses deux domestiques déclaraient avoir entendus. Mais Tom persista courageusement à affirmer qu'il était seul. Cependant, il faut convenir qu'il hésita d'abord un peu, ce qui aurait affermi M. Allworthy dans son opinion, quand même ce qu'avaient dit le gentilhomme et ses domestiques auraient eu besoin d'une plus ample confirmation. Le garde étant déjà suspect, fut mandé sur le champ et interrogé. Mais comptant sur la promesse que Tom lui avait faite de prendre tout sur lui, il nia absolument qu'il eût accompagné et même vu le jeune homme de toute l'après-midi. M. Allworthy se retourna alors vers Tom, avec plus de colère sur son visage qu'il n'en montrait ordinairement, et lui conseilla d'avouer qui était avec lui, lui répétant qu'il était résolu de le savoir. Mais Tom resta inébranlable dans sa résolution, et fut renvoyé avec un grand courroux par M. Allworthy, qui lui dit qu'il lui donnait jusqu'au lendemain matin pour y penser, et qu'alors il serait interrogé par une autre personne et d'une autre manière. Le pauvre Tom passa une nuit bien triste, et d'autant plus qu'il n'avait pas son camarade ordinaire, car M. Blifil était allé faire une visite avec sa mère. La crainte de la punition qu'il devait subir était en cette occasion le moindre de ses malheurs. Sa principale inquiétude était que son courage ne l'abandonnât et qu'on ne le réduisît à trahir le garde-chasse, dont il savait que son indiscrétion entraînerait infailliblement la ruine. Le garde-chasse ne passa pas son temps plus agréablement. Il avait les mêmes craintes que le jeune homme, car il prenait un plus tendre intérêt à la conservation de l'honneur qu'à celle de la peau de son ami. Le lendemain matin, Tom étant avec le révérend M. Thwackum, à qui M. Allworthy avait confié l'éducation de ces deux jeunes gens, on lui fit les mêmes questions que dans la soirée précédente. Il y fit les mêmes réponses, ce qui lui valut le fouet, mais avec une telle barbarie qu'il put se faire une légère idée des tortures que l'on emploie en certains pays pour arracher des aveux de la bouche des criminels. Tom supporta cette punition avec une grande fermeté, et quoique son maître lui demandât entre chaque coup de fouet s'il persistait à ne pas avouer, il aima mieux se laisser écorcher jusqu'au sang que de trahir son ami ou de manquer à la promesse qu'il avait faite. Le garde fut bientôt guéri de son inquiétude, et M. Allworthy lui-même commença à prendre quelque intérêt aux souffrances de Tom. Car, outre que M. Thwackum, vivement piqué de n'avoir pu faire dire au jeune homme ce qu'il voulait, eût poussé la sévérité beaucoup au-delà des intentions de cet excellent homme, celui-ci commença à soupçonner que son voisin, le gentilhomme, s'était trompé. Ce que sa colère et son extrême empressement à l'accuser semblaient rendre probable. Et quant à ce que les domestiques avaient dit pour confirmer le rapport de leur maître, ils n'y ajoutaient pas beaucoup de foi. Or, comme la cruauté et l'injustice étaient deux torts dont M. Allworthy ne pouvait pas un seul moment supporter le sentiment intérieur, il envoya chercher Tom, et après quelques exhortations douces et amicales, il lui dit « Je suis convaincu, mon cher enfant, que mes soupçons ont été injustes. Je suis très fâché que vous ayez été si sévèrement puni. » Et, en forme de réparation, il lui fit présent d'un petit cheval, lui répétant encore combien il était chagrin de tout ce qui s'était passé. Cette extrême bonté envers Tom lui fit sentir sa faute plus vivement que n'aurait pu le faire la plus grande sévérité. Il avait eu plus de force pour supporter les coups de fouet de Thwackum que la générosité de M. Allworthy. Des larmes s'échappèrent de ses yeux, il se laissa tomber sur ses genoux, s'écriant « Oh, monsieur, vous avez trop de bonté pour moi. En vérité, vous êtes trop bon. En vérité, je ne le mérite pas. » Son cœur était si plein en ce moment qu'il était prêt à trahir son secret. Mais le bon génie du garde-chasse lui rappela sur le champ quelle pourrait en être la conséquence pour le pauvre malheureux, et cette considération lui ferma la bouche. Thwackum fit tout ce qu'il put pour dissuader M. Allworthy de montrer aucune compassion ou la moindre indulgence pour Tom, disant qu'il avait persisté dans son mensonge et donnant à entendre qu'une seconde correction de la même nature éclaircirait probablement la vérité du fait. Mais M. Allworthy refusa absolument de consentir à cette expérience. Il dit que Tom avait déjà assez souffert pour avoir caché la vérité, dans le cas même où il serait coupable, puisqu'il ne pouvait avoir d'autre motif qu'un faux point d'honneur pour en agir ainsi. « De l'honneur !» s'écria Thwackum avec emportement, « pure obstination, pure opiniâtreté. L'honneur apprend-il à dire un mensonge, et peut-il exister aucun honneur indépendant de la religion ?» Cette conversation eut lieu à table, à la fin du dîner, en présence d'un tiers, qui se mêla aussi de la discussion, et qu'avant d'aller plus loin, nous allons faire connaître en peu de mots au lecteur. Chapitre 3. Caractère de M. Squeal, le philosophe, et de M. Thwackum, le théologien, avec une dispute concernant... Ce nouvel hôte de M. Allworthy se nommait M. Squeal. Il n'avait que peu d'esprit naturel, mais il y avait beaucoup ajouté par une éducation soignée. Il connaissait à fond les anciens et possédait au suprême degré tous les ouvrages de Platon et d'Aristote. Il avait pris ces deux grands hommes pour modèles, se rangeant tantôt à l'opinion de l'un, tantôt à celle de l'autre. Platon avait formé sa morale, Aristote sa religion. Mais quoique la morale de Platon fût la sienne, comme nous venons de le dire, il était aussi de l'avis d'Aristote qu'il considérait plutôt comme un philosophe contemplatif que comme un législateur. Il portait ce sentiment fort loin, et même si loin qu'il réduisait toute vertu à une simple théorie. J'ai entendu dire, il est vrai, qu'il ne l'avait jamais affirmé à personne, mais lorsque j'observe sa conduite, je ne puis m'empêcher de penser que ce fut son opinion véritable. Je ne pourrais concilier autrement quelques contradictions que l'on apercevra dans son caractère. Ils se rencontraient rarement avec M. Thwackum sans se disputer avec lui, car leurs doctrines étaient précisément opposées l'une à l'autre. Square prétendait que la nature humaine était un composé parfait de toutes les vertus, et que le vice était, comme les difformités du corps, une déviation de notre nature. Thwackum, au contraire, maintenait que le cœur humain, depuis la chute du premier homme, n'avait été qu'un cloaque d'iniquité, jusqu'au moment où nous avions été purifiés et rachetés par la grâce. Ils n'étaient d'accord qu'en un seul point, qui consistait à ne jamais prononcer le mot de bonté dans tous leurs discours de morale. La phrase favorite du premier était la beauté naturelle de la vertu, et celle du dernier était le divin pouvoir de la grâce. Le premier jugeait de toutes les actions par la règle inaltérable de la justice et l'éternelle convenance des choses. Le dernier décidait tout d'autorité. Mais il citait toujours à son appui les Saintes Écritures et leurs commentateurs, comme les avocats citent celui de Littleton, dont le commentaire est égal au texte en autorité. Après ce court préambule, le lecteur voudra bien se ressouvenir que le ministre avait terminé son discours par cette question triomphante, à laquelle il ne craignait point de réponse. Peut-il exister aucun honneur indépendant de la religion ? Square y répondit cependant qu'il était impossible d'avoir une discussion philosophique sur des mots dont on n'avait pas commencé par fixer le sens, qu'il y avait à peine deux mots dans la langue d'une signification plus vague et plus incertaine que les deux qu'il citait. Car il y avait presque autant d'opinions différentes sur l'honneur que sur la religion. Mais, dit-il, si par l'honneur vous entendez la véritable et naturelle beauté de la vertu, je maintiens qu'elle peut exister indépendamment de toutes les religions quelconques. Et vous m'accorderez vous-même, ajouta-t-il, qu'elle peut exister indépendamment de toutes, hors une seule. Car c'est ce que m'accorderait un mahométan, un juif et tous les disciples des différentes sectes du monde. Thwackum répliqua que c'était argumenté avec la malignité ordinaire à tous les ennemis de la véritable Église. Il dit qu'il ne doutait pas que tous les infidèles et tous les hérétiques du monde ne voulussent, s'ils le pouvaient, resserrer l'honneur dans les bornes de leurs erreurs absurdes et de leurs damnables égarements. Mais il n'y a pas, dit-il, autant de sortes d'honneur qu'il y a d'opinions absurdes sur l'honneur. Il en est ainsi de la religion, malgré la grande quantité de sectes et d'hérésies qui existent dans le monde. Quand je dis religion, je dis la religion chrétienne, et non seulement la religion chrétienne, mais la religion protestante, et non seulement la religion protestante, mais l'Église anglicane. Et quand je dis l'honneur, j'entends cette sorte de grâce divine qui ne s'accorde pas seulement avec la religion, mais en dépend absolument, et ne s'accorde avec aucune autre, et ne dépend d'aucune autre. Or, dire que l'honneur tel que je l'entends ici, et qui je le pensais du moins, était le seul honneur qu'on pût supposer que j'eusse entendu, est jamais enseigné à soutenir, beaucoup moins encore à imaginer un mensonge, c'est avancer une absurdité trop choquante et trop inconcevable. C'est avec dessein que j'évitais, dit Square, de tirer une conclusion que je croyais assez claire. Mais si vous l'avez tirée vous-même, au moins est-il sûr que vous n'avez même pas essayé de me répondre. Quoi qu'il en soit, en laissant de côté l'article de la religion, il me paraît clair, d'après ce que vous avez dit, que nous avons sur l'honneur des idées différentes. Autrement, nous nous réunirions pour l'expliquer dans les mêmes termes. J'ai affirmé que le véritable honneur et la véritable vertu étaient des termes presque synonymes, et que tous deux sont fondés sur la règle inaltérable de la justice et la convenance éternelle des choses. Or, un mensonge en étant absolument l'opposé, il est certain que le véritable honneur ne peut s'allier avec lui. Je crois donc qu'en ceci nous sommes parfaitement d'accord. Mais dire que l'honneur soit fondé sur la religion, lorsqu'il doit avoir existé avant elle, si toutefois l'on entend par religion quelque loi positive... Je suis d'accord, dites-vous, répondit Thwackum avec beaucoup de chaleur, je suis d'accord avec un homme qui assure que l'honneur doit avoir existé avant la religion. Monsieur Allworthy, en ai-je été d'accord ? Il allait continuer quand M. Allworthy leur imposa silence en leur disant très froidement qu'ils s'étaient trompés tous les deux sur ce qu'il avait voulu dire, puisqu'ils n'avaient pas entendu parler du véritable honneur. Il est possible cependant qu'il ne fût pas parvenu à calmer les deux antagonistes qui commençaient à s'échauffer vivement si un nouvel incident n'eût mis fin pour le moment à la discussion.